j'avais l'impression que c'était en fait une démarche de liberté, ma démarche de liberté. C'était, je sais pas, c'était une échappée. Il faut sortir de sa propre dépendance pour aller un petit peu plus loin.
Nous sommes en 1969. L'année commence un mercredi. Armstrong a marché sur la Lune. À Romans-sur-Isère, il fait 23 degrés et dans les librairies, on hésite entre la disparition de Georges Perec et les guerrières de Monique Whiting. Le Concorde s'est envolé pour la première fois. Le billet unique métro-autobus fait son entrée dans les transports à Paris, juste avant qu'une troisième chaîne, à tendance culturelle, donne de la voix. C'est cette année-là que Jacqueline, jeune maman de trois enfants en bas âge, prend sa deux chevaux pour aller à la conquête de sa liberté. Une liberté simple, vraie, celle qui consiste à faire ce que l'on veut au moment où on le veut. Ce jour-là, cette envie de liberté se traduira par un achat. Une veste, en daim, chatoyante, douce, parfaitement coupée. Depuis ce jour, cette petite veste a un parfum de féminité et de puissance. Elle trône dans la penderie comme un emblème, un vêtement totem que l'on transmet à la rigueur mais dont on ne se sépare pas. En achetant cette veste, Jacqueline va à la conquête d'un territoire. Elle s'émancipe, s'affranchit de l'autorité maternelle et maritale dictée par les codes de la société. Comment nos habits nous habitent-ils ? À quoi peut ressembler le parfum de liberté dans les années 70 et que nous raconte cette veste qui donne des ailes? Après le virage, nous emmène en balade, à la rencontre d'un récit, d'une époque, au travers d'un objet ou d'un lieu. Aujourd'hui, le départ de notre histoire se situe quelques années auparavant, en 1965, lorsque paraît la loi permettant aux femmes de disposer d'un compte en banque et de travailler sans l'accord de leur mari.
Il y a 50 ans, voilà ce qu'une femme mariée s'entendait souvent répondre à la banque.
Pardon, monsieur. Bonjour, madame. Je voudrais ouvrir un compte en banque. Que faut-il que je fasse?
Bien, madame, il faudrait que vous nous présentiez une carte d'identité et une autorisation maritale.
Une autorisation maritale, c'est-à-dire celle de son mari, pour ouvrir un compte. Parce qu'à l'époque, malgré les apparences, les femmes en couple étaient encore, en matière pécuniaire, totalement dépendantes de leur cher époux, et ce, depuis 1804, et le fameux code civil promulgué par Napoléon. Sous ces lignes, l'organisation systématique de l'infériorité de la femme et la domination absolue du mari. Pire encore, dans certains cas, l'homme pouvait carrément empêcher sa femme de travailler.
Ils oublieront le grand vent, mais ils se rappelleront toujours le plus beau jour de leur vie.
Génération après génération, l'injustice persistait, le chef de famille dominait. 50 ans ont passé, mais Thérèse Claire, mère de 4 enfants, se souvient de cette époque comme si c'était hier.
C'est incroyable ce qu'on était bête, incroyable ce qu'on nous maintenait dans la bêtise familiale. On était faites que pour avoir les enfants, faire la cuisine. C'était soi-disant la vie dite privée. Donc la vie dite privée, il n'y avait pas de loi, c'était au bon vouloir des hommes.
Jusqu'à cette loi déterminante du 13 juillet 1965 qui va enfin changer la vie quotidienne de toutes les Françaises.
Tu peux signer ton chèque maintenant, tu vas tout seul,
oui.
Sans prévenir.
Alors maintenant, la femme peut gérer ses biens, c'est-à-dire si elle possède soit des immeubles, soit des propriétés, elle peut les faire sans l'avis de son mari. On est un peu plus libre déjà de faire ce qui nous plaît, sans le consentement du mari.
Les temps ont bien changé. Les femmes revendiquent leur liberté. Presque une sur deux travaille. Un esprit nouveau commence à souffler. Pour les féministes, cette loi de 1965 n'était qu'une première étape. Michèle Idels faisait partie du mouvement.
Cette loi de 65 a laissé subsister la notion de puissance paternelle. Il a fallu attendre 70 pour qu'il y ait à la place de la puissance paternelle, l'autorité parentale. Et encore, cette autorité parentale n'était pas du tout égale.
Mariage piège à con, il est loin le code Napoléon. En quelques années, c'est tout le patriarcat qui s'effondre, suivront les lois sur la contraception et plus tard encore, celles sur le droit à l'avortement.
Je suis partie en course à Romans. Peut-être que j'y cherchais des chaussures, en fait, parce que Romans étant la capitale de la chaussure, voilà. Et il y avait pas mal de petites boutiques et j'ai vu cette veste Anda, mais d'une couleur que je trouvais vraiment couleur d'un, quoi, chatoyante. Je la trouvais douce, je trouvais que c'était une couleur douce. Mais surtout, je lui trouvais une coupe, une jolie coupe, cintrée, comme j'en avais envie, et courte. Voilà. Je sais que ce qui était court et cintré m'allait bien. Donc si elle avait été longue et puis droite, ça aurait été différent. Ça aurait été une veste plus ordinaire. Celle-là, et puis elle avait des surpiqûres, et j'aimais beaucoup les surpiqûres. Voilà. En fait, j'ai toujours aimé les surpiqûres sur des tissus épais ou sur des chaussures, par exemple, aussi. Et là, il y a des surpiqûres ton sur ton, pas un fil avec une autre couleur, bien sûr. Hein. Je crois qu'il y a des surpiqûres. Bon. Enfin bref, je trouvais que j'aimais bien son col. Hein, un col... Bref, je l'aimais bien et j'étais triste de ne pas pouvoir la mettre plus longtemps après. Je la portais sans doute, pas forcément avec un pantalon, je ne sais plus, mais c'est vrai, peut-être avec une jupe ou un pantalon, si je portais quand même bien des pantalons qui étaient un peu fuseaux à l'époque. Ouais. C'est vrai, ils étaient encore fuseaux à l'époque, oui. Non, avec une jupe, je ne crois pas, non. Bon, en fait, je la portais, oui, assez souvent, oui. Je ne cherchais pas d'occasion, hein, non. Là, je la portais selon... C'est une veste qui réclame une certaine saison, quand même. Hein. Bon, tu ne vas pas porter ça en plein été. Alors, je devais la porter quand même d'une façon assez régulière à l'automne, oui. Oui, sûrement, puis au printemps aussi un peu. C'est une veste demi-saison, c'est normal. Alors, effectivement, on a des choses qui peuvent être très belles. Et puis, tout à coup, la mode, c'est plus ça du tout. Moi, je regrettais beaucoup. Alors, bon, c'est vrai que j'ai arrêté de la porter, mais j'ai beaucoup regretté de ne pas pouvoir la porter plus longtemps. C'est pour ça que j'étais vraiment heureuse qu'elle puisse retrouver une vie. Voilà.
Une petite robe noire, légère, toute simple et sans manière, dansait à l'écart au fond du placard. N'avait autour d'elle que des gilets de flanelle, des chemises d'homme et des pantalons tout comme. Elle était hélas si peu à sa place, perdue par hasard entre deux costards. Une anomalie, pourtant si jolie, suspendue fragile dans ce drôle d'exil viril. Faut dire que ça plaît aux filles, les petites robes qu'un rien déshabille, petits bouts de tissu sans quoi elles iraient nues. Petit rêve où s'égare la main ou le regard, petite robe noire toute simple et sans phare. Petite plume volée aux parures étranges des anges. La petite robe noire racontait sa belle histoire, ses heures de grâce au printemps qui passe. Quand le cachemire, le blouson de cuir, rassurants et forts, ne la blessait pas encore. Quand une caresse la faisait princesse, quand elle allait libre de toutes ses fibres, avant le passage des premiers orages, avant qu'on ne la cloue de reproches flous, jaloux. Faut dire ce que ça coûte aux filles, les petites robes qu'un rien déshabille, petits bouts de tissu sans quoi elles iraient nues. Petit rêve où s'égare la main ou le regard, petite robe noire toute simple et sans phare, petite plume tombée en souvenir étrange d'un ange. La petite robe sage s'abîmait sous les outrages, avilie de cris, salie de mépris. Elle savait les coups, les marques au cou, les larmes qui brillent au coin des yeux qu'on maquille. Un soir de misère, d'enfer ordinaire, de vagues ruptures, de coups de ceinture, on l'avait griffée, déchirée, froissée, et puis peu importe, laissée de la sorte.
Grâce aux vêtements, on va plus loin que soi-même.
Oui, alors a priori, ça peut sembler un peu superficiel de se dire que des vêtements vont nous changer. Mais je pense qu'effectivement, il y a toute une dimension psychologique. C'est se vêtir, c'est bien plus que juste une simple étoffe. C'est endosser un rôle, pourquoi pas, endosser quelque chose qui va nous vêtir. C'est quelque chose de très intime aussi, contre notre peau, qui est directement contre notre peau, et c'est peut-être se donner de la force, se donner du courage. Communiquer aussi.
Cette veste, elle me rappelle vraiment un moment de liberté. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de me faire ce plaisir. Je ne savais pas que ça allait être celui-là, mais j'étais partie pour me faire un plaisir, m'acheter quelque chose, mais pas n'importe quoi. Et ben alors, c'était pas n'importe quoi, effectivement, parce que c'est un prix, à l'époque, c'était un prix, c'était important. Et comment j'ai pu succomber, effectivement, à cette idée de m'offrir, et toute seule en plus. Alors, comment je suis partie à Romans toute seule? Ah ben, en voiture, probablement, bien sûr. Mais un jour de classe, pourquoi j'étais toute seule? Je n'en sais rien. Je ne sais plus du tout. Étant donné qu'il n'y avait pas de... Et qu'il n'y avait rien pour garder les enfants. Pas de crèche, on n'avait pas de choses comme ça. J'avais l'impression que c'était en fait une démarche de liberté, ma démarche de liberté. C'est vrai, je ne me sentais pas libre, ni avant de me marier, ni après. J'avais pas eu l'occasion, par mon éducation, de chercher à vouloir me libérer de mes parents, de ma famille. Puis ensuite, on se marie, bon, il y a des codes à respecter, il y a des... voilà. Mais là, effectivement, c'était une échappée. Et j'ai trouvé ça amusant, j'ai trouvé ça drôle. C'était peut-être la première fois d'avoir eu envie de m'émanciper, à aller toute seule. Bon, après j'ai eu d'autres exemples d'achats où je vais dire qui m'intéressait, qui me plaisait et qui n'était pas soumis, je veux dire, à l'approbation de quelqu'un. Oui, ça a été pour moi, j'étais surprise moi-même d'avoir eu envie de partir et puis de me dire, je vais m'acheter quelque chose, je vais me prendre quelque chose, j'avais peut-être besoin d'une veste, j'en sais rien. Et j'étais pas là à me dire, oui, mais bon, tu pars avec tant, tu dois pas dépenser plus que, même pas. C'était peut-être une folie, je m'en souviens pas, mais bon, tout était un peu moins cher quand même à l'époque. Hein. Donc, oui, c'était une première émancipation, c'est assez curieux, mais... J'avais 32 ans. Oui, j'avais 32 ans, oui. Je me sentais assez bien. On avait des activités, on était bien avec nos amis, on était bien dans le contexte de l'environnement, bien dans cette petite maison. C'était pas mal quand même. C'était assez... j'étais assez détendue, je crois. J'écoutais beaucoup de classiques, mais ça, c'est quand j'étais en repos. Et sinon, je me mettais vraiment beaucoup de jazz le matin si j'avais du ménage à faire. Bon. Donc, je me réservais toujours mon moment de lecture et mon moment de musique, des musiques différentes selon les activités que j'avais avec. Le jazz, c'était pour m'encourager, me donner du tonus. Je lisais des journaux engagés, mais je lisais des romans également. Alors lesquels ? Bon, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai. À cette époque-là, je ne sais plus. Je lisais des romans de bibliothèque, quoi comme histoire, qui avait trait à la vie. Tout ce qui rappelait un petit peu la difficulté de vivre dans d'autres pays, par exemple, dans des contextes de gouvernement difficiles, voilà. Même si c'était pas la même période, bien sûr. c'était romancé, mais ça reprenait comme par exemple si on reprend Tchekhov maintenant, on peut le mettre au goût du jour. Hein, on retrouve toujours des thèmes identiques. Et puis on était en 69, c'est vrai qu'on était assez engagés, donc on lisait beaucoup. Des articles. Je me suis beaucoup formée à cette période-là en lisant Témoignages chrétiens parce que c'était très formateur pour moi. Et je me formais comme ça et mes lectures tournaient autour de ça aussi. Oui. J'aurais pu avoir d'autres types de moments de liberté comme ça. J'avais un mari qui aurait tout à fait compris que j'ai envie de vivre des choses. D'ailleurs, une deuxième porte de liberté que j'ai eue plus tard, j'ai quitté tout le monde quand même pendant une semaine pour faire un stage de yoga. Bon, voilà. Et ça a été. Une deuxième porte, chose que je n'ai pas faite avec les aînés. Quand j'y repense, j'ai quand même laissé tout le monde en plan. J'avais préparé cette absence, bien sûr. Hein. Chacune était occupée. Et j'étais complètement dans mon stage, complètement. Voilà, comme la première fois pour ma veste en daim, j'étais complètement dans mon achat. Et puis j'étais ravie J'étais ravie de mon choix. C'était bien. Et j'ai eu l'impression d'être une copine avec les autres, d'être présente avec les autres et d'être moi, tout simplement. D'être là, de profiter de la compétence des gens qui nous faisaient ce stage, parce qu'on faisait du théâtre aussi, on faisait du théâtre de groupe, on faisait chacun se présentait seul pour préparer quelque chose. Il fallait montrer devant les autres ce qu'on était capable de faire. Et pour moi, qui était particulièrement timide toujours avant, et là peut-être un peu moins, parce que c'était le théâtre, même quand j'étais enfant, le théâtre m'aidait justement à être moins timide, oui, c'est sûr. À m'exprimer, et je pense que c'est valable pour tout le monde. Des gens qui sont très timides arrivent à sortir un bout de sa personnalité à travers le théâtre.
Rien à faire. Je commence à le croire. J'ai longtemps résisté à cette pensée en me disant « Vladimir, sois raisonnable » et je reprenais le combat. Alors, te revoilà, toi ? Tu crois ? Je suis content de te revoir. Moi aussi. Je te croyais parti pour toujours.
Donc il y avait du yoga, il y avait des séances comme ça de diction aussi. Et ça, j'adorais. Si bien que j'avais toujours pensé que j'aurais bien aimé être dans ce domaine-là, oui. C'est-à-dire travailler en équipe sur une scène, faire partie d'un groupe théâtral. Je faisais partie d'un groupe théâtral quand j'avais 8 ans, par exemple, théâtral, un groupe de quartier. Voilà, une famille qui s'occupait des enfants et qui leur faisait faire des scénettes. Et là, moi, j'adorais. Faire de la comédie, oui, interpréter, ça peut être... Ça aurait pu être drôle, parce que ça aurait pu se faire, oui. Des rôles plus sérieux, oui. Je connaissais très bien celui qui était l'initiateur de ce stage. Hein. C'était un comédien de la Comédie des Alpes, de Grenoble.
Conseiller technique et pédagogique régional, Jean Rodien, c'est le chef de stage, celui qui pénètre avec des chaussons dans le cœur des stagiaires, selon son expression. Comédien, membre de la Comédie des Alpes, ce passionné, perfectionniste, humaniste et rigoureux, est le pédagogue du stage, le patron de la diction, le monsieur loyal du tambourin pour les exercices de rythme et le maestro de l'écoute forcée, comprenez une écoute collective et attentive de musique. Qui est passé par ses mains se souvient de son rire reniflé, du claquement de ses tongs, de ses éclats de voix à faire trembler les vitres, de ses commentaires éthiques et humains, de ses histoires de corps de garde, de ses imitations, de son brouillis et de tout ce qu'il a apporté à chacun.
Jean Rodien. Il s'appelait Jean Rodien. Oui, c'était Jean Rodien. Et bon, il y en avait d'autres également. Oui, j'ai appris des choses. Ça apporte... ça apporte de l'assurance. On dépend de soi-même, en fait, aussi. Hein, c'est ça. Donc, il faut sortir de sa propre dépendance pour aller un petit peu plus loin. L'indépendance, elle n'est pas forcément à cause des autres. Elle peut être à cause de ses propres barrières. L'indépendance, c'est quand tout à coup, on s'aperçoit, quand on décide de faire quelque chose avec... qu'on a une idée en tête, qu'on n'a pas encore... qu'on n'a pas réalisé, et parce qu'on trouve toujours des raisons de ne pas pouvoir la réaliser. On se trouve toujours des barrières. C'est l'indépendance de penser, l'indépendance de dire ce que l'on pense, l'indépendance d'être vrai. Sinon, c'est important d'être... indépendance d'esprit, ça ne veut pas dire qu'on se sépare de ce qu'on apprécie chez d'autres. L'indépendance de penser, oui. C'est vrai qu'il faut savoir s'affranchir. C'est compliqué hein, d'expliquer ça, l'indépendance, la liberté... s'affranchir de ses propres préjugés, de ses propres appréhensions aussi. Donc je me suis sentie indépendante et pourtant j'étais pas coincée. Je veux dire personne ne me coinçait. J'avais pas une famille qui me bloquait, un mari qui était jaloux ou qui m'empêchait de dépenser ou de non pas du tout. Pas du tout, oui. J'avais besoin de me prouver que j'étais indépendante, probablement. C'était sans doute inutile, hein, mais ça me faisait du bien. Voilà, donc un petit bout de liberté à un moment donné, et puis ça prend des proportions. Hein.
Je vends des robes, des pulls et des manteaux, des bas, des gants. Pantalons, des sacs, des ceinturons, des slips et des manchons de toutes.
Après le virage, c'est terminé. Merci à Jacqueline de nous avoir confié ce récit. Musique Nicolas Ripac, Juliette et Nino Ferrer. Archives issues du site de France Info, d'un extrait de la série documentaire Sommes-nous libres de nos habits, diffusée sur France Culture, où l'on entend la consultante Fanny Auger, et du blog des anciens stagiaires d'art dramatique Jeunesse et Sport. Prise de son, montage et mixage, Cécile Préfol. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur Jet FM 91.2.
Si j'aurais pu, j'aurais aimé. Vive à la campagne toute l'année. Avec des moutons, des cochons, des oignons, des lampions, des voisins, des machins, des raisins, des pépins, des clôtures, des voitures, des toitures, des ordures, des poulets, des pommiers, des bergers. Mais je vends des robes à des femmes jolies, petites et blondes, ou grandes et distinguées, ou grosses et mal élevées, ou grosses et
coiffés de toutes espèces qui me font tourner en bourrique.